La police et les prisons sont des institutions violentes et racistes, issues d'un héritage colonial qui servent qu'à reproduire les injustices du système capitaliste. Tous les jours, même quand c'est la soi-disant paix sociale, la police violente, harcèle et incarcère les personnes les plus démunies et les plus opprimées. Puis quand elle se soulève, c'est encore la police et la prison. Le problème, c'est pas seulement les dérapes violentes de la police, mais l'institution policière elle-même qui constitue une forme de violence, au même titre que les tribunaux, les lois et les prisons. Est-ce qu'on peut vraiment parler de pommes pourries quand l'institution entière existe pour réprimer et opprimer? Le Verger au complet, c'est une série de podcasts sous forme d'entrevues touchant à différents thèmes liés à la police, aux prisons et à la justice, mise sur pied par la CLAC, la Convergence des luttes anticapitalistes, un groupe basé à Chauchaké, Montréal, en terre autochtone non cédée. Nous vous proposons une analyse critique qui s'oppose à la vision libérale, celle qui préfère cibler les pommes pourries dans le panier plutôt que de s'attaquer au système d'oppression. Ne leur laissons pas cette chance. On ne réforme pas un système aux fondations pourries, on le démolit. Attaquons-nous au verger au complet. Comme on l'a mentionné dans le dernier épisode, les prisons n'ont pas toujours existé. Leur apparition s'inscrit dans un processus de gestion des corps et des vies humaines qui accompagne la naissance du capitalisme. Les prisons comme telles font bien sûr partie d'un plus grand système carcéral, très développé dans notre société, qui sert pas seulement à punir une personne qui a commis un geste considéré illégal, mais permet aussi à l'État d'exercer un contrôle social. Les répercussions de ce système sont néfastes pour les personnes emprisonnées et leur communauté, aussi bien que pour le reste d'entre nous qui vivons en connaissant les conséquences de ce qu'ils représentent. Pour en apprendre plus, nous vous présentons une entrevue avec Ellen Hudson. Depuis une vingtaine d'années, Ellen Hudson milite en solidarité avec des prisonnières et prisonniers. Elle habite sur le territoire Kaninkahaka, non cédé, aussi connu sous le nom de Montréal, mais travaille principalement avec des prisonniers politiques aux États-Unis. Elle s'identifie comme une femme noire, queer et anarchiste. Au niveau politique et social, qu'est-ce que c'est la prison?
Bien, la prison, tout d'abord, pour moi, l'important est de mentionner que la prison, c'est pas juste un endroit qui existe, c'est une institution sociale. C'est-à-dire, il y a une fonction que la prison ça sert à quelque chose dans notre société et puis c'est lié avec toute autre institution dans la société. Donc, c'est clair que c'est lié au gouvernement, à la police, mais il faut aussi être conscient que c'est lié à l'économie, à le système d'éducation, les frontières, tout ce qui fait fonctionner la société, il y a un lien avec la prison. Et c'est quoi la fonction de prison? Pour moi, à mon analyse, c'est un contrôle social, spécifiquement quand la société, le capitalisme, l'État cause la précarité, il faut faire quelque chose avec ces gens précaires et il faut faire quelque chose pour faire en sorte que les gens comprennent qu'il y a des pouvoirs, que l'État a les pouvoirs sur eux. Alors, c'est ça la fonction de prison, d'avoir un endroit pour garder comme un surplus de personnes, de travailleurs, et pour envoyer le message clairement que la coercion, il est là comme menace à la population, à la peuple.
Peux-tu nous dresser un portrait de la population carcérale au Canada? Qui se retrouvent en prison et quels sont les liens entre leur incarcération et les autres formes d'oppression auxquelles ces personnes font face?
Mais comme j'ai dit, la prison est là pour envoyer un message et pour contrôler des gens. Alors, ça ne surprend pas que les gens marginalisés, les gens opprimés se retrouvent en prison en grand nombre. Donc, au cours des dernières décennies, les dernières 4 décennies, on a voir une augmentation en général en le nombre de personnes en prison dans le monde occidental, c'est-à-dire des pays comme Canada, les États-Unis, en Europe, etc. Au Canada, on n'a pas vu augmenter notre population incarcérée, mais on a vu augmenter les personnes opprimées. Pour donner un exemple, en 2001, je veux dire, le pourcentage de prisonniers dans les prisons canadiennes fédérales, où se retrouve tout le monde qui purge une peine de plus que deux ans ou plus, le taux de personnes autochtones était juste en bas de 20%. Là, c'est en haut de 30%, juste en haut de 30%, 30.5%. Quand on regarde chez les femmes autochtones, c'est plus que 40%. Et avec les jeunes, les personnes jeunes, n'importe leur genre, c'est aussi élevé comparé à cette 30% qui est déjà élevé par rapport à la 5% de personnes au Canada, dans l'État de Canada, qui sont autochtones. Donc, c'est une grande surincarcération. Et ça, on voit aussi chez les personnes noires. Donc, ça, on parle un peu de racisation des prisonniers et prisonnières, mais aussi quand on regarde tout ce qui est l'oppression, la pauvreté, des problèmes sentimentaux, l'analphabétisme, tout ça, c'est surreprésenté en prison. Donc, on voit clairement que les personnes opprimées sont les personnes qui se retrouvent en grand nombre derrière les barreaux.
La prison touche-t-elle la vie des gens qui ne sont pas elles-mêmes emprisonnés?
Moi, c'est très clair que la prison, ça touche la personne emprisonnée, mais ça touche des communautés, ça affecte des communautés. Quand quelqu'un est en prison, cette personne laisse leur famille, laisse leur job qui est souvent enraciné dans leur communauté. Mettons par exemple une communauté noire comme Montréal-Nord, juste pour prendre un exemple. Mais ça, je vais parler du État canadien, mais la même dynamique se reproduit dans tous les pays occidentaux. Donc, quand on enlève en grand nombre tout le monde qui peut travailler, tout le monde qui peut être tête d'une famille, tout le monde qui a les rôles dans une communauté où ils transmettent des savoirs culturels, toute cette sorte de choses qui peut être un peu le leadership, pour le dire comme ça, d'une communauté. Si ces gens sont derrière les barreaux, c'est pas juste eux qui sont affectés. C'est sûr que c'est eux qui sont affectés très, très concrètement, mais c'est aussi comme une cercle vicieux qui se produit dans le sens que les jeunes, les enfants dans les communautés où beaucoup d'adultes sont emprisonnés vont voir leur chance d'être emprisonnés aussi dans le futur augmenter.
Donc, en plus de cibler et d'affecter les populations déjà les plus opprimées et les moins privilégiées de la société, le système carcéral perpétue ces oppressions. Au lieu de régler quoi que ce soit, la prison accentue les causes de la soi-disant criminalité. Pour toi, l'abolition des prisons est une réponse à ces injustices. Peux-tu nous expliquer ce qu'est l'abolitionnisme?
Mais l'abolitionnisme, c'est clair par son nom, c'est qu'il a pour but d'abolir la prison, de faire en sorte qu'on va avoir une société sans prison. Quand je mentionne ça, souvent j'ai une réaction que c'est une idée un peu ridicule ou un peu utopiste, dans le sens que qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ce qu'on appelle des crimes, c'est-à-dire des méfaits entre des personnes, quelqu'un blesse quelqu'un d'autre ou prendre quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Comment est-ce qu'on peut régler ça sans prison? Ben, honnêtement, j'ai pas de réponse très, très simple et très concrète à ça, mais juste pour dire qu'il y a des sociétés où ça se fait pas de façon, comment on règle ça dans notre société, c'est-à-dire avec des prisons. L'autre chose pour mentionner est que si on veut régler des problèmes entre les gens en dedans des communautés, c'est très, très différent d'y impliquer l'État. Parce que avec la notion des crimes qu'on a avec les cours, la police, la prison, ce qui vient avec est que toute l'oppression que je viens de mentionner, mais aussi que si ce n'est plus conceptualisé comme un méfait contre une autre personne, mais plutôt un méfait contre l'État. Donc, mettons que moi, je prends votre bicyclette, je prends ton bicyclette à toi. Avec la notion des cours, des prisons, des crimes, c'est pas entre moi et toi, c'est entre moi et l'État. Donc, ça devient complètement autre chose. Avec l'abolition des prisons, on veut toujours avoir une façon de régler ça entre moi et toi, entre tout le monde qui est affecté, mais ce n'est plus une affaire d'État, ce n'est plus une méfaite contre l'État. Et en plus de ça, au-delà de ça, ce n'est plus question de punir. Parce que ça, c'est l'autre aspect de l'abolitionnisme et c'est axé sur des solutions, c'est axé sur ce qu'on appelle en anglais restorative justice. Il y a sûrement un mot français pour ça, mais ça m'échappe. C'est-à-dire de retourner à un état, pas un état comme l'état, mais comme une situation où tout le monde est correct, où on a guéri l'injustice qui s'est produite. L'autre chose que j'aimerais mentionner avec l'abolitionnisme et que c'est à la fois pour faire en sorte qu'il n'y a plus de prison et en même temps pour essayer de bâtir les alternatives. Donc, il y a une lutte anti-carcérale, mais il y a aussi une lutte pour une vision de notre société.
Restorative justice, en français la justice réparatrice, sert, en bref, à trouver un moyen pour la personne qui a causé un tort à une ou des personnes de réparer le mal qu'elle a causé, selon les besoins et les demandes de la ou des victimes. Au soi-disant Canada, le gouvernement fédéral s'est approprié le terme justice réparatrice en lui donnant une place dans son système carcéral punitif. Aujourd'hui, certaines préfèrent donc parler de justice transformatrice, soit une forme de justice refusant toute collaboration avec l'État et misant sur la transformation des mentalités, notamment par le biais de processus entre les victimes/survivantes et les personnes ayant causé du tort. Nous allons revenir sur ces notions dans un des prochains épisodes du Verger au complet, qui portera plus spécifiquement sur les formes de justice alternative. Thank you. Parmi les gens qui voudraient voir un monde sans prison, il y en a qui sont critiques du terme abolitionnisme. Peux-tu nous en parler? Qu'est-ce que le mot abolition veut dire exactement pour toi?
Mais il y a deux aspects de ça. D'abord, comme mon premier point sera de dire que tout à fait, on peut avoir une critique très réelle dans le sens que d'abolir la prison, ça veut dire quoi? C'est une question tout à fait pertinente parce qu'on ne peut pas vraiment abolir une institution de la société juste le faire disparaître. C'est sûr que si c'est lié à la suprématie blanche, le capitalisme, le patriarcat, l'homophobie, toutes sortes de choses, on peut pas juste faire l'abolir. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui se disent abolitionnistes qui n'ont pas une critique de toutes ces autres institutions que je viens de mentionner. Donc ça, pour moi, ce n'est pas très réaliste de dire on va juste abolir la prison et le reste de la société, ça va rester comme il est. Pour moi, ce n'est pas réaliste et ce n'est pas juste non plus. De l'autre côté, le terme abolitionnisme, ça fait un lien direct à l'abolitionnisme de l'esclavage. Et il y a beaucoup de gens dans les mouvements abolitionnistes qui font ce lien très fortement dans le sens que la prison est une institution profondément suprémaciste blanc, profondément coloniale. Alors, quand il y avait le mouvement abolitionniste de l'esclavage, cet mouvement n'a pas tout à fait réussi. On a toujours l'esclavage a légué la suprématie blanche. Et la suprématie blanche, c'est un des fondements de l'institution de prison. Donc, pour beaucoup de gens qui se disent abolitionnistes, c'est que c'est le même mouvement. C'est toujours le même mouvement. C'est une continuation de le mouvement abolitionniste qui existait il y avait un peu plus d'un siècle. Et pour moi, en tant de personne noire, de personne antiraciste, c'est important de faire ce lien. Donc, c'est pour ça, en partie, que je me dise abolitionniste et pas juste une personne anti-prison. L'autre chose est qu'il y a l'abolitionnisme du prison, il y a aussi l'abolitionnisme carcéral. Et pour moi, l'abolitionnisme carcéral est plus pertinent, c'est plus large dans le sens qu'il y a aussi des autres instances carcérales, il y a aussi des autres façons d'enfermer des gens, c'est-à-dire les choses qui se disent les alternatives à prison, donc mettons des bracelets GPS où des gens sont confinés chez eux, mais toujours surveillés par l'État et pas capables, pas permis de partir de chez eux. Il y a des frontières, il y a des hôpitaux psychiatriques fermés. Et là, je dis hôpitaux dans des guillemets. C'est pas des vrais hôpitaux pour moi. Il y a personne qui va se guérir là. Alors, c'est ça, l'abolitionnisme carcéral. Donc, c'est-à-dire l'abolitionnisme du prison, de toute autre instance carcérale et avec un lien historique à l'abolitionnisme de l'esclavage.
Et qu'est-ce qui en est du féminisme carcéral?
En fait, en parlant, je me suis rendu compte que dans une des autres questions, j'aurais voulu parler un peu plus de la patriarcat spécifiquement. Parce que une partie du discours des prisons très centrale est que la prison est là pour nous garder en sécurité, de nous protéger des personnes qui sont emprisonnées. Et parmi les luttes radicaux, les luttes révolutionnaires, je pense qu'il y a dans tous les mouvements des éléments réformistes qui ont pour réponse à leur oppression qu'il faut punir les gens et entre autres avec la prison. Mais surtout en les luttes anti-patriarcat, et surtout en les luttes contre la violence contre les femmes, il y a des éléments qui exigent les peines plus longues, les lois plus sévères. Il y a un nom pour ça, c'est le féminisme carcéral. Et là, dans les années récentes, ça me donne beaucoup d'espoir de voir une dialogue en dedans des mouvements féministes comme quoi le féminisme carcéral, c'est un grand problème et c'est pas une solution à la sexisme de enfermer les gens parce que ça améliore pas la sécurité des femmes. Et on voit avec les lois plus sévères que c'est souvent les femmes qui se retrouvent derrière le barreau pour se défendre. Donc, voilà, c'est ça que je voudrais ajouter parce que c'est souvent une question que des gens ont. Comment est-ce qu'on va être en sécurité? Comment est-ce qu'on va se protéger? Et c'est comme une « trap », on dit en anglais. De penser que la prison va nous protéger et de faire recours à ça comme revendication dans nos autres mouvements.
Je suis le pauvre mec, je suis au clan. À ma seule pied des mecs dans mon gauche. Je rampe dans le chaos, je suis magique. Oh gars, je t'aimerais peu faire qu'à propos des commentaires. Si tu fuck la popo, t'es un menteur. Commence donc par qui le code dans ton mental. Le clac-clac que t'entends, c'est beau que j'ai fait. Quand je vais tâter ton opinion, ah c'est de fuck. C'est pas que tu sportes, c'est pas pareil. Tes copains sont d'accord, ça doit être correct. Expert pour visiter, tu vas classe. C'est les tuyaux, je prends le sérieux. No thanks, sorry. Ben du courage derrière ton écran. Sans entourage, ça ne sert à mon grand. Je fais tout le travail quand je démolis ta bouche. J'ai dit merci, maman, reste poli. J'ai dit que fils, pas parfait. Qui est bosso, pas le temps à me perdre dans des débostiles. J'pense à te faire des choses terribles comme Nick qui mène dans Tocqueville. C'est mon oui, fait chaud depuis que j'suis rentré dans la pièce. C'est mon info, un show. Tu pris des bonnes places, fin, il se passe quelque chose comme point d'enfer, j'ai hit the fam. Est-ce que t'es dans la place? Pas de mic, j'crois que j'l'ai pas t'écouter. Chance mince, que j'me rappelle tes catés. J'vais en caler des commandes, t'es plus t'es ou t'es café. T'as mes voyages, what else? Un petit DJ à côté. J'sais pas pourquoi j'suis aussi pas un gentleman. T'es parce que j'ai pas peur des araignées. J'suis officiellement donné avec les gars moyens. Next time, sur ces fonds, je fais payer. Trop vieux pour attendre après un putain. C'est ce que je suis en train de migrer un putain de tic. J'ai oublié faire genre on pourrait se revoir. Manquer d'étiquette, one way ticket. J'fonce avec détermination dans un cul-de-sac. Quand I've done, she's strong, j'vois cul-sac. J'veux pas j'ai touche back, j'cherche tout de fort. J'suis une cassine l'ambiance et j'écoute fort. J'suis pas cette défense de ceux que ça pousse fort. Pour ceux que t'as ta bouche, j'suis petit goût de fort. T'as même mis chez fond du bac, t'as un clown high. J'croise même pas avec toi, j'te laisse tout de fort. J'crache feu, j'ai des pensées toxiques. J'veux pas crash and burn, j'élimine les toxines. J'colle sur les chocs, j'ai mon flow au chat. Quand j'ai mon honorable jazz comme Jack Meeting, un petit bass, un tombe, j'te monte. La base au fond, on monte sur le toit. J'suis chippé dans le fond, sur des chemins étroits. T'es comme un chèque sans fond, personne n'a besoin de toi. Tu pensais j'hésitais pas parce que j'ai pas dans ton screen. Juste lève la tête, j'ai fait jam comme screen. Puis personne n'a d'être, tu fonds déjà comme ice cream. Tu vas taffer tes filets, tu connais faire des streams. Oh, mauvaise nouvelle.
Alors, être abolitionniste, ça implique quoi en termes concrets? Comme action, comme stratégie ou comme engagement politique?
Pour moi, je commence par la fin, comme engagement politique, pour moi c'est central. Quand je me suis radicalisée, quand je suis devenue militante, au début c'était pas contre les prisons. Je faisais du militantisme féministe, queer, antiraciste et ça m'a pris quelques années pour comprendre que la prison est centrale dans toutes ces luttes. C'est une façon d'opprimer des gens, des mouvements. Beaucoup de mon travail avec les prisonniers, c'était avec des prisonniers politiques, dans le sens que c'était des prisonniers incarcérés pour leur rôle dans des autres mouvements sociaux. Donc, si on est sérieuse à opposer et à vaincre le patriarcat, le capitalisme, la suprématie blanche, le colonialisme, la transphobie, et là, je peux continuer la liste, toute forme d'oppression, toute structure qui nous opprime, c'est important de ne pas avoir des murs en dedans de nos luttes. Donc, c'est de inclure tout le monde, incluant les prisonniers et les prisonnières dans nos luttes et de viser l'institution de prison comme une des cibles de toutes ces luttes. Donc, là, c'est une réponse un peu plus théorique. Pour aller un peu plus dans le concret, quand j'ai mentionné tantôt, il y a comme deux pistes. Il y a la piste abolitionniste en tant que telle, c'est-à-dire pour la lutte anti, la lutte contre les prisons. Il y a aussi le côté plus visionnement des alternatives. honnêtement dit, moi, je suis moins impliquée dans la partie vision, mais juste, je trouve l'important de le mentionner. Mais en termes de ce qui est le côté plutôt anti, c'est de surtout prendre le leadership des prisonniers et prisonnières, donc de soutenir les luttes qui se font en dedans des prisons. Et il y en a plein. Il y a des grèves de faim, des grèves de travail où les prisonniers refusent de travailler. Il y a toutes sortes d'autres actions. Donc, d'être en lien avec ces luttes-là, de prendre un leadership de ces gens. Et ça veut dire des fois de faire des choses qui ont pas juste le destruction complète du prison comme exigence, comme but. Donc, des fois, il y a des prisonniers, des prisonnières qui réclament, mettons, des conditions un peu moins sévères. Et des fois, nous, les militantes, en dehors des prisons, on peut trouver ça un peu réformiste, mais c'est une lutte très concrète pour améliorer les conditions de vie de nos camarades. Donc, d'être en solidarité avec ces luttes, c'est très important. Et d'y amener un regard abolitionniste. C'est d'avoir un dialogue comme quoi ces luttes font partie d'une lutte plus large. Aussi très important concrètement, et de opposer tout ce qui est l'expansion des prisons. Ces jours-ci, il y a beaucoup de surpopulation dans les prisons qui existent. Beaucoup de prisons sont très vieux. Donc, des fois, on peut avoir des revendications pour des nouvelles prisons, des prisons qui se disent meilleures. Et c'est très important d'opposer à ça, dans le sens que quand on construit des nouvelles prisons, on va les remplir. On voit ça très clairement quand on regarde l'histoire plus ancienne et l'histoire très récente, que c'est super important de toujours opposer ça. Et ça, c'est une des choses que les abolitionnistes font beaucoup. Je sais qu'actuellement à Montréal, il y a une campagne contre une nouvelle prison immigrant qui se fait. Et alors voilà, je pense que je vais terminer là.
Bref, plutôt que d'être une lutte secondaire, militer pour l'abolition des prisons constitue une nécessité en soi pour quiconque souhaite réellement s'attaquer au système capitaliste. Levier de production des inégalités sociales, les prisons oppriment, marginalisent et se basent sur une vision patriarcale et suprémaciste de la société pour punir. Édifier un monde anti-autoritaire passe donc nécessairement par l'abolition des prisons et, de manière plus juste, du système carcéral qui se reproduit par l'enfermement des personnes stigmatisées comme indésirables. S'il peut sembler à première vue irréaliste de régler le tort commis par les membres d'une communauté sans avoir recours à l'État, comment s'empêcher d'arriver au même constat avec le système carcéral? N'est-il pas fondamentalement irréaliste d'espérer régler tous nos problèmes sociétaux en enfermant toutes les personnes ayant causé du tort? S'il faut lutter activement pour l'abolition et contre l'extension du système carcéral, oublier les personnes y étant actuellement enfermées apparaît cependant comme non souhaitable, et ce, surtout pour les personnes n'ayant jamais été emprisonnées ou n'étant pas en contact avec des personnes emprisonnées. De la réduction des méfaits à l'autonomie radicale des collectivités, sans oublier les formes de justice alternatives comme la justice réparatrice ou transformatrice, de nombreux exemples de communautés refusant d'avoir recours au système punitif pour régler le tort causé se doivent d'inspirer nos trames de résistance collective. Un dernier mot pour vous inviter à la manifestation anticapitaliste du 1er mai à 16h au parc Jarry, coin Saint-Laurent et Gary Carter. La manifestation de cette année a pour thème « Pas de retour à la normale », parce que nous refusons autant le monde pré-pandémique que l'avenir néo-capitaliste qui se dessine. On se voit dans la rue!
fuck la popote, t'es un menteur.